L'atelier des médias, Ziad Malouf.
C'était en avril dernier. Je venais de terminer un rendez-vous dans un salon de thé parisien où j'avais interviewé l'auteur d'un livre sur les fantasmes de l'univers start-up. En sortant, je passe devant un petit groupe de personnes attablées parmi lesquelles je reconnais le visage d'Okin, un hacker français de renom. Je salue, échange quelques mots polis. Okin me présente ses amis et notamment un jeune homme qui me passe une carte de visite et m'explique qu'il est l'auteur et l'interprète d'une conférence gesticulée consacrée à l'informatique. Une conférence gesticulée. Je n'avais jamais entendu cette expression. J'ai souhaité en savoir plus. Avec Constance Léon de l'Atelier des médias, nous avons mené notre modeste enquête et avons découvert que les conférences gesticulées désignent un exercice d'expression en public né il y a une dizaine d'années en France, porté par une communauté discrète mais extrêmement dynamique. Un mouvement qui mêle le théâtre, la conférence traditionnelle, l'information, l'éducation, la culture, la politique et le militantisme. Un phénomène que nous avons bien entendu choisi de vous faire découvrir aujourd'hui. Les conférences gesticulées des anti-TED à la française, c'est un reportage de l'atelier des médias RFI.
Alors moi c'est Luna, je travaille depuis pas mal d'années autour de l'informatique et de l'impact que ça a sur nos vies, nos libertés.
Lunard, c'est ainsi qu'il se fait appeler, est le jeune homme que j'avais croisé dans le salon de thé à Paris. C'est grâce à lui que j'ai découvert les conférences gesticulées et c'est donc tout naturellement que je l'ai contacté pour ce reportage. Par chance, il avait prévu un passage à Paris cette semaine. Il est venu nous voir à l'atelier. Comme il vient de l'expliquer, il est spécialiste d'informatique et milite pour les enjeux de liberté liés au numérique.
Mais aussi garder du contrôle sur tout ça, quoi. Est-ce que c'est les machines qui nous contrôlent ou est-ce que c'est nous qui contrôlons les machines? Il y a des fois on peut se poser la question vu les évolutions.
Vous faites quoi dans la vie? Alors c'est toujours embêtant comme question. En général j'ai l'impression que les gens ils veulent que je leur réponde à un métier, vous voyez. Donc je pourrais dire ah je suis informaticien. Sauf qu'en fait je me suis jamais défini comme informaticien, parce que être informaticien ça peut être c'est tellement de métiers différents, quoi. Programmeur, administrateur système. Souvent, j'ai envie de dire ce que je considère être le plus proche de la vérité, mais je prépare la révolution. Et puis, j'ai jamais osé, parce que je me dis, ah, c'est quand même vraiment prétentieux. Donc voilà, j'ai pas fait ça. Alors, à un moment, j'essayais de dire aussi un truc qui me semble correspondre à ce que je fais dans la vie, qui est, je défends les libertés dans le monde numérique. Et alors ça faisait ça, c'est-à-dire que la conversation...
Ça c'est un extrait de la conférence de Lunard qu'il a mis à disposition sur une plateforme de partage vidéo. Cette conférence est née de la frustration de Lunard qui n'arrivait pas à convaincre un public suffisamment large de l'importance des questions de liberté, de surveillance, de partage liées à l'Internet.
Et je me dis, oh là là, c'est vraiment dommage. On manque d'outils pour et de moyens pour essayer d'amener plus de monde à comprendre les enjeux politiques que ces évolutions du numérique dans nos sociétés posent. Voilà, à un moment donné, il manquait quelque chose. Et bon, je tombe, on me parle, on me dit « Ah, t'as vu ce truc-là que fait Franck Lepage ?» Et puis voilà, je vais regarder sur YouTube, puisque il y a des... maintenant on regarde souvent des choses sur YouTube, et il y a un certain nombre de captations des conférences de Franck dessus.
Règle de base numéro 1, vous allez dans un colloque pour être d'accord. Pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque. Vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord, c'est très mal vu. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je sais pas quoi, dans ce cas-là, vous dites « je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent ». Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle. Et donc là, le type est salaud.
Et là, ça me parle, puis il y en a d'autres. Je regarde d'autres captations, je me renseigne un peu sur le format et je vois une réponse à ce problème.
C'est donc en découvrant une conférence d'un certain Franck Lepage que Lunard réalise qu'il a peut-être trouvé une solution à sa frustration de militant. À travers cet exercice public d'un nouveau genre, il va pouvoir, il l'espère, expliquer à des non-spécialistes pourquoi il est important de défendre les enjeux de liberté liés au numérique. Franck Lepage est un militant de l'éducation populaire. Cette manière de concevoir la transmission de savoir, la culture, la connaissance en dehors des cadres traditionnels de l'éducation.
Je me suis retrouvé, à la suite de différents hasards, je me suis retrouvé à travailler dans une fédération d'éducation populaire au niveau national. Donc j'ai travaillé 15 ans à un niveau de réflexion sur des politiques publiques, etc. Et puis je me suis fait virer. Je me suis fait virer, comme il arrive dans ces mouvements, des changements politiques. Enfin, j'étais pas tout seul, c'est toute mon équipe qui s'est fait virer. Bon, voilà, c'est des changements de majorité politique. Et je me suis retrouvé, je fais quoi maintenant ? Le gag, enfin, je pense qu'il faut presque le voir comme une provocation, comme une bêtise, c'était de dire je me colle un nez rouge, je monte sur scène et je balance tout, je raconte tout, tout ce que j'ai compris. En fait, j'avais une opportunité avec un homme de théâtre qui s'appelait Benedetto et qui m'avait reproché de faire le malin dans des colloques et qui m'avait dit que je devrais monter sur scène. Il m'avait dit ça 10 ans plus tôt. Et quand je l'ai recroisé, j'étais en préavis de licenciement, je lui ai rappelé ça. Je lui ai dit tu m'as proposé de monter sur scène, bah tu vois, toi t'as un joli théâtre en plein Avignon, dis donc, tu vois, place des Carnes, ouais, tu vois. Et donc je dis, j'imagine que si je me colle un nez rouge sur le pif et que je te raconte tout ce que j'ai compris dans les politiques publiques, là, tu vas me donner ton joli théâtre. Moi, je pensais qu'il dirait non, évidemment, et il m'a pris au mot.
Nous sommes en 2004. Franck Lepage a 49 ans. André Benedetto, directeur du théâtre des Carmes à Avignon, lui donne 3 dates, les 16, 17 et 18 juillet. 3 fois 1 heure dans le off du festival. 3 cartes blanches pour partager son expérience de la France des ministères, la France de l'enseignement public, la France des inégalités sociales. Franck accepte le défi, mais regrette de ne pas avoir plus de temps sur scène. Il se voyait parler 72 heures d'affilée.
Et en fait, je vais rien foutre jusqu'au festival. C'est juste que je vais me retrouver à quelques jours d'aller au festival, à commencer à être un peu inquiet, en me disant, mais il va y avoir un malentendu. En fait, les gens vont payer, s'asseoir dans le noir, ils vont attendre un truc théâtral. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, j'ai juste envie de parler comme ça. Merde. Et bon, j'avais fait du théâtre à la fac de Vincennes il y a longtemps. Et donc, je dis, il faudrait que je mette une petite forme, quoi, que j'arrive déguisé en jardinier, ou je sais pas quoi, fait une bêtise, quoi. Enfin, qui est un début et une fin, qui me donne un prétexte ensuite à improviser ce que j'ai à dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 impros, une sur l'école, une sur la culture, et une sur le langage. Et donc, c'était une expérience. Et il me dit, ton truc, ça marche, si tu veux, l'année prochaine, je te donne le festival, je te donne un créneau pendant tout le festival, mais je veux un truc d'une heure. Et en fait, à ce moment-là seulement, je me suis dit, ok, c'est pas ça que je voulais faire, mais je vais arrêter de me cacher derrière mon petit doigt. Finalement, j'arrête pas de pleurnicher qu'il n'existe pas de théâtre politique, à mon sens. Au sens où un théâtre politique, pour moi, c'est pas Antigone, c'est la CAF, le RSA, la vie des gens, enfin, tu vois. Et donc, je lui dis, finalement, ce type me propose un créneau théâtral. Est-ce que je suis capable, finalement, de produire un truc d'une heure qui réponde à ce que moi, je trouve politique? Et donc, j'ai accepté. Et je l'ai joué 23 fois à Avignon en 2005. Il y a eu un bouche à oreille incroyable. J'avais des articles. Des gens du festival m'envoyaient leur public. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Enfin, tu vois, c'était un truc. Et alors, il fallait me mettre dans le programme. Tu sais, le fameux programme du off, là, avec les 700 trucs. Et alors, j'avais pas réfléchi à ça. Ils me disent, on vous met dans quelle rubrique théâtre? Alors je dis, non, c'est pas du théâtre, faut pas me mettre là-dedans. Ils me disent, clown. Je dis, non, mais arrêtez. Ils disent, conte. Je dis, non, c'est pas du conte. Ils disent, oui, vous êtes gentil, mais c'est quoi? Et en fait, ça existait pas. Il faudrait une rubrique intellectuelle de gauche agitée, tu vois. Enfin, et donc, alors ça me sort comme ça. Je dis, vous avez qu'à mettre, mettez conférence gesticulée.
Et c'est donc ainsi, par hasard, qu'est né le concept de conférence gesticulée.
Et en fait, je ne l'ai pas prémédité. L'idée de la conférence me paraît juste, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, c'est vraiment travaillé, il y a du savoir universitaire derrière, il y a une analyse, il y a une réflexion solide. Et en même temps, il y a ce côté foutraque, déconneur et l'air de pas y toucher, tu vois. Et du coup, le mot gesticuler, que je n'avais pas prémédité, il est redoutable, en fait, parce que du coup, ça devient un oxymore. Tu comprends que une gesticulation, c'est totalement dépréciatif. Enfin, je veux dire, quand tu dis quelqu'un qui gesticule, ça veut dire qu'il brasse du vent, quoi. Et donc, il y a cette idée de l'illégitimité, en fait, qui m'intéresse. C'est-à-dire que À un moment, j'avais écrit « La conférence gesticulée est un acte d'illégitimité radicale ». C'est-à-dire que demain, enfin vendredi soir, là, il y a une aide-soignante qui monte sur scène. Elle n'a jamais fait de théâtre de sa vie. Enfin, puis ça n'a jamais été son propos, ni son projet, ni son envie. Simplement, elle est aide-soignante. Elle est aide-soignante, elle voit une conférence gesticulée un jour à Saint-Denis. Elle se dit « Mais moi aussi, j'ai des trucs à dire ». Et elle vient faire le stage et cette femme, elle monte sur scène et elle nous explique la destruction de son métier aujourd'hui dans l'hôpital. Et c'est absolument bouleversant. Parce que n'importe qui parle de son métier pendant une heure, il est passionnant. Si toi, je te demande de raconter sur scène qu'est-ce que c'est qu'être journaliste à RFI, ben on va apprendre plein de trucs en fait. Moi, je sais pas comment elle marche de maison, je connais pas ses contradictions, je connais pas les dessous, je connais pas les enjeux, je connais pas les bagarres, je connais pas les espoirs, enfin, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, moi, RFI, j'ai juste une radio. Mais imagine, tu vois, que tu livres toute ta compréhension, toute ta connaissance de ton métier de journaliste dans ce truc-là, tu décides d'en faire un spectacle d'une heure. Mais un spectacle très, très simple, enfin, tu vois, t'es debout, voilà. En fait, on va être passionné tout le temps, forcément, obligatoirement. Tu ne peux pas être ennuyeux. Et il y a un vrai enjeu. La définition de l'intellectuel par Noam Chomsky, je la trouve absolument éclairante. Il dit, un intellectuel, c'est quelqu'un qui essaye de dire de la façon la plus juste possible des choses importantes à des gens concernés par ces choses. C'est ce qu'on fait dans les conférences gesticulées.
Reprenons la chronologie. En 2005, Franck Lepage inscrit l'expression « conférence gesticulée » au programme du OFF du Festival d'Avignon. Il propose chaque soir une représentation d'une heure où il partage son expérience de militant pour l'éducation populaire. Son spectacle s'intitule « Inculture » au pluriel, petits contes politiques et récits non autorisés. Deux ans plus tard, en 2007, il cofonde une coopérative appelée « Le Pavé ». Elle vise à promouvoir de manière indépendante l'éducation et la formation des adultes. Ses associés dans le projet décident de limiter et d'imaginer leur propre conférence gesticulée, chacune, chacun, selon son parcours et ses centres d'intérêt. En parallèle, Franck continue, lui, à proposer sa conférence dans des théâtres et des lieux publics en France.
Ce qui va se passer, c'est que un jour, dans un théâtre parisien, un gars me dit « Mais moi, je peux te trouver des sous, si tu veux, pour écrire, je sais pas quoi, enfin, il y a des résidences d'écriture. » Et je lui dis « Écoute, si tu peux faire ça, on va faire autre chose. Alors, on va demander aux gens dans la salle s'il y en a qui ont envie de faire une conférence gesticulée. » Et je présente mes deux conférences, celle sur la culture, celle sur l'école, deux soirs de suite, et on dit il y a un cahier qui est ouvert à la sortie. Voilà. Les gens qui auraient envie de faire une conférence gesticulée, apparemment on a trouvé un petit budget, laissez vos coordonnées. Et on se dit, peut-être si on arrive à en trouver quatre, ça serait formidable. Quatre personnes. Et il y en a 50. Chaque soir, il y a 25 personnes qui laissent leurs coordonnées et qui disent « je veux faire une conférence gesticulée ». Et là, on est obligé de réaliser qu'en fait, on vient de toucher du doigt une forme dont les gens se sentent capables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrêtés par la dimension théâtrale. Tu vois, ils disent pas « moi je pourrais jamais faire ça, monter sur scène, oh là là, c'est impossible, j'ai pas fait de théâtre, je sais pas quoi ». Ils voient l'espèce de nécessité de parler de ce qu'ils ont vécu et ils disent « mais moi j'ai des trucs à dire ». Je pense à ce conseiller de mission locale qui vient me voir et qui me dit « j'ai été 5 ans conseiller dans une mission locale, soit je fais une conférence gesticulée, soit je fais un concert ». Et donc on s'est retrouvé avec ces 50 demandes. Il y a eu 23 confs qui sont sortis de là, 23 conférences. Et à ce moment-là, on s'est dit « bon ». On va ouvrir des formations, alors, puisque c'était ça qu'on était. On était une structure de formation d'adultes, formation politique. Et donc, on a ouvert la première formation aux conférences gesticulées, qui a été remplie tout de suite, avec un gars qui était étudiant en médecine, qui raconte pourquoi il veut plus être médecin, avec un kiné qui raconte comment ça marche, le monde du kiné, avec des gens qui viennent dévoiler, qui viennent travailler leurs contradictions. C'est toujours des gens qui arrivent à un moment de contradiction. On n'a pas de conférence gesticulée pro machin, ça c'est les TEDx, tu vois. On n'a pas quelqu'un qui vient nous dire à quel point c'est génial le management, c'est pas vrai. On a des profs qui en peuvent plus, si tu veux, de cette contradiction où ils massacrent des gosses du matin au soir avec des notes tout en racontant qu'ils fabriquent de l'égalité. Et donc voilà, donc c'est
C'est donc ainsi, par une succession de choix et de hasards, qu'en 2007 naît le mouvement des conférences gesticulées. Il repose sur deux piliers. Petit 1, les formations, dispensées d'abord par le Pavé, la coopérative cofondée par Franck, puis par d'autres organismes nés dans son sillage. Elles permettent ces formations à des dizaines de personnes de créer, d'imaginer, d'écrire, de jouer leurs conférences. Petit 2, les représentations, les conférences gesticulées elles-mêmes qui initient un large public, souvent militant, à cette nouvelle forme d'expression. Et c'est au sein de ce public qu'émergent de futurs gesticulants. C'est le terme qui est utilisé. Lunard, qu'on a entendu au début de l'émission, est devenu gesticulant en 2016, après avoir découvert une conférence de Franck Lepage et après avoir suivi une formation. Sa conférence gesticulée s'intitule « Informatique ou liberté ?» Point d'interrogation.
Dans la conférence gesticulée, on mélange plusieurs fils d'histoire en même temps, et je me sers de... Moi, ce que j'ai vécu, ma vie en ligne, que j'ai commencé à très tôt, mes premières discussions par clavier, c'était, j'avais une dizaine d'années, c'était à l'époque du Minitel. Ensuite est arrivé Internet, mais toutes ces rencontres que j'ai faites en ligne, elles m'ont créé un réseau relationnel à l'image du réseau Internet, c'est-à-dire distribué dans l'espace. Donc j'ai dû beaucoup voyager. Et il y a un moment, j'avais pas de fric, donc je faisais beaucoup de stop. L'intérêt, quand on fait du stop, c'est qu'on est coincé avec une personne dans une voiture pendant plusieurs heures. Donc on discute. Et une série de ces discussions-là, elles se retrouvent dans la conférence. Elles sont pas inventées. Elles sont un peu simplifiées. Mais toutes ces discussions-là, je les ai eues réellement, que ce soit en stop ou en covoiturage. Et donc, il y a des scènes dans une voiture. Il y a des scènes qui sont plutôt des extraits de vie. Et il y a de la formation. Quoi. J'amène avec un paperboard et puis je fais des petits schémas de comment ça marche Internet. Ça dure jamais très longtemps. Et c'est l'idée, c'est de juste se donner une image un peu commune de tiens, comment ça fonctionne un ordinateur? Comment ça fonctionne le réseau Internet? Qu'est-ce que c'est qu'un serveur? À quoi ça ressemble physiquement? Qu'est-ce que c'est les impacts en énergie électrique que du réseau Internet?
Pour contourner la censure en Chine, par exemple, c'est un outil qui s'appelle Tor. T-O-R. Alors, ça utilise du chiffrement, donc des maths, tout un réseau de bénévoles qui font tourner des machines sur Internet pour fournir grosso modo deux choses. Tor, ça fait que le fournisseur d'accès à Internet, il voit pas quelles sont les machines qu'on va visiter. Donc, s'il sait pas où on va, il peut pas censurer. Ok? Et le serveur qu'on va voir, il ne sait pas d'où on vient. Donc, par exemple, une personne qui lancerait un rendez-vous de manif, ça devient plus difficile de savoir quel ordinateur elle a utilisé pour lancer ce rendez-vous et donc de la retrouver si elle sait, si elle a protégé son identité en même temps. Quoi.
Alors, il y a cet aspect formation. C'est un temps pour dévoiler, et on parle de dévoilement, c'est-à-dire on essaye d'aller creuser pour des choses qui ne sont pas forcément évidentes, de dévoiler une situation d'injustice sociale, de se redonner des pistes collectives d'action. Et la conférence, quand on peut, on l'accompagne d'un atelier d'éducation populaire où là, on n'est plus dans un rôle de formateur, on est dans un rôle d'animateur. Bon, là, le savoir, il part des personnes qui viennent à l'atelier. Dans la conférence gesticulée, il y a cette idée de faire quelque chose où les gens qui ont bossé 40 heures dans une semaine, qui arrive le vendredi soir à 9h pour voir un truc qui va être un temps de formation, ils ne s'endorment pas. Donc on emprunte au code du théâtre, c'est le côté gesticulation, pour essayer que ce soit dynamique, que ça parle, qu'on essaye de chercher différents registres. Il y a des règles un peu dans les outils, c'est on essaye de changer de rythme un peu ou de sujet ou de façon de faire toutes les 3 à 7 minutes. Et après, il y a un des éléments qui est fondamental, c'est qu'on, dans la conférence gesticulée, on part de notre vécu. C'est un temps de transmission de savoir, mais c'est un savoir qui est incarné. Ce qui donne la légitimité du propos et de monter sur scène, c'est qu'on parle de nos expériences. Nos expériences, nos vécus de vie propres, et aussi de les mettre en lien avec, tiens, mais comment ça résonne dans la société? Comment c'est en lien avec d'autres personnes? Il y a toute une dimension collective. Une dynamique collective, des pratiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et qui ne soit pas incantatoire. On ne dit pas, tiens, il faudrait abattre Google. Parce que ben ça, même si on est 15, on n'y arrivera jamais. Quoi. Par contre, à 15, on peut se dire, ah, et si on montait un service d'hébergement de nos données qui remplace Google Drive, par exemple, sur un ordinateur qu'on contrôlerait, on saurait où il est, qui ne serait pas surveillé, qui ne serait pas financé par la publicité, etc.
Courte pause dans l'atelier, nous nous retrouvons dans un instant. Atelier des médias, vous écoutez RFI, nous explorons aujourd'hui l'univers des conférences gesticulées. Un exercice de formation, de partage d'expériences, de récits autobiographiques en public. Une forme inventée en France en 2005 par Franck Lepage.
C'est extraordinairement important de partager ce qu'on a compris, ce qu'on a vécu, auquel les autres ne peuvent pas avoir accès, dans le champ qui est le nôtre. Une assistante sociale qui part à la retraite après 30 ans de carrière, elle a un savoir politique phénoménal, mais elle ne le reconnaît pas comme savoir politique. Jamais elle va dire « je vais écrire un livre », tu vois, elle n'est pas légitime, puisqu'il faut être du CNRS pour écrire sur les politiques sociales. Or, cette femme qui a 30 ans de mise en œuvre, tu vois, de politique sociale sur un département, elle sait plein de choses. Si tu l'invites chez toi, si c'est ta belle-sœur, Elle est passionnante, elle va te raconter plein d'anecdotes de femmes qu'elle a rencontrées, qui étaient dans... Enfin, tu vois, je veux dire... Et donc, ce savoir-là, il n'est pas partagé. C'est ça, l'éducation populaire, c'est de mettre ce savoir-là en partage. Et c'est de décider qu'on a un savoir. Tout le système éducatif nous dit « nous n'avons pas de savoir ». Nous sommes ignorants. Et, d'accord, pour avoir un savoir, il faut... c'est la question du savoir légitime, Bourdieu. Mais donc, ce que je trouve magnifique dans le mouvement des conférences gesticulées, c'est de dire « mais si, t'as un savoir, bien sûr ». Nous sommes tous des bibliothèques de savoir, mais de savoir stratégique, de savoir utile pour l'action collective, pas de savoir qui sert à rien. Enfin, je me rappelle, quand je travaillais dans les MJC, je discutais avec des directeurs de MJC.
C'est une maison de la jeunesse et de la culture.
Maison des jeunes et de la culture, sont des équipements dans une commune. Et alors, ils me décortiquaient les enjeux de pouvoir dans la commune, comment ça se passe, les trucs. Enfin, c'était absolument fascinant. Et quand je leur disais, tu devrais raconter ça. Elle me disait, mais t'es fou, toi. Non, surtout pas, c'est complètement... Faut pas parler de ça, enfin, c'est secret, enfin, je vais sauter, je vais perdre mon poste, enfin, tu vois. Mais en fait, tous ceux que je rencontrais avaient une finesse d'analyse des rapports politiques, des rapports sociaux, des rapports de force sur une commune qui était juste fascinante. Mais imagine qu'ils décident d'en faire quelque chose quand ils partent à la retraite. T'imagines qu'un type qui a bossé à Poitiers ou à Bordeaux ou je sais pas où, dans des grandes villes comme ça, t'imagines ce qu'il a raconté. Enfin, c'est... Mais il le fait pas, personne le fait. Donc on ne transmet pas notre savoir politique, on le garde puis on meurt avec. Sauf si on fait une conférence gesticulée.
Dans la première partie de l'émission, si vous étiez des nôtres, vous avez pu découvrir comment le concept de conférence gesticulée est né. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes proposent ce type de représentation en France. Il existe des formations dispensées par des coopératives d'éducation populaire et des festivals organisés par ces coopératives ou par des passionnés. J'ai rencontré Iréna à Malakoff où elle coordonne le festival de conférences gesticulées Octobre Bouge, un festival qui se termine ce dimanche 8 octobre.
Bonjour. Alors moi je m'appelle Iréna Havlicek, je fais tourner depuis 3 ans maintenant une conférence gesticulée qui s'appelle l'économie sociale et solitaire. En fait, cette histoire de conférence gesticulée, j'y suis venue en découvrant en fait les conférences gesticulées de Franck Lepage. Et puis j'en connaissais un certain nombre. Et puis moi, je ne me suis jamais sentie légitime pour monter sur scène, raconter des choses. Enfin voilà, bon, c'est pas mon milieu, c'est pas ma manière de faire.
C'est quoi ton milieu, ta manière de faire ?
Moi, j'étais journaliste dans une autre vie, voilà. Mais donc moi, j'écris, je suis plutôt un soutier. Je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'ombre, qui fait des choses, mais qui ne se met pas sur le devant de la scène. Et puis sur l'économie sociale et solidaire, il se trouve que moi j'étais très très engagée dans ce mouvement-là parce que je suis aussi gérante d'une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, que j'ai vu un petit peu l'arrivée de ce grand mouvement de l'économie sociale et solidaire, quelque chose auquel j'ai cru très très fort. Et puis j'ai vu petit à petit comment ça a été récupéré par les entrepreneurs sociaux, par toute une catégorie de gens qui trouvaient là une nouvelle occasion de faire du business. Et que j'étais très très déçu. Et donc j'avais cette espèce de chose sur les bras, je ne savais pas très bien comment faire.
Quelle chose, c'est-à-dire la déception
La déception, la frustration, et puis moi ce qui m'embêtait le plus là-dedans, c'est de dire, voilà, il y a beaucoup de gens, et notamment des jeunes, qui sont prêts à s'engager là-dedans en toute bonne foi, en essayant de se dire qu'ils vont changer la vie, changer le monde de l'entreprise, et puis finalement, on les trompe, quoi. on les utilise pour faire autre chose, pour faire de l'argent en fait. Et puis donc je me retrouvais avec ces interrogations, ces doutes, ces constats, et puis j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc,
un livre peut-être naturellement pour quelqu'un qui aime écrire
ou... Oui, alors ça aurait pu faire un livre. Le problème d'un livre, c'est que bah, les gens qui vont l'acheter, c'est déjà des gens qui sont dans une démarche particulière. Et donc on ne touche pas forcément un très très large public. Et voilà, petit à petit, l'idée d'une conférence gesticulée s'est dit bah, pourquoi pas. Et donc moi aussi j'ai profité de moments où j'étais pas trop trop occupé puisque j'étais entre deux boulots. Et donc je suis parti faire cette formation de conférencier gesticulant. C'était il y a 4 ans. Alors les formations, elles sont généralement toutes à peu près sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il s'agit de moments de travail collectif sur 3-4 jours. Après, les gens repartent chez eux pendant un mois. Ils sont censés faire leurs devoirs à la maison. Et puis, ils reviennent au regroupement suivant, etc. Jusqu'à l'aboutissement d'un produit non pas fini, puisqu'en fait, une conf, elle n'est jamais finie. Elle continue à vivre sa vie. Et à chaque fois, on l'arrange, on change des choses. Dans mon cas, je change beaucoup parce qu'il y a une actualité qu'il faut intégrer au fur et à mesure. Il y a des tas de trucs dont je parlais dans le futur qui, hélas, maintenant, se sont réalisés. Donc voilà, il faut... Une conférence gesticulée, c'est pas un spectacle qui est fini, qui est posé sur la scène. C'est de toute façon quelque chose qui évolue d'une conf à une autre, suivant le public qu'on a en face, suivant la manière dont il va réagir, sur sa connaissance du sujet ou non. Donc voilà, on s'adapte au fur et à mesure, quoi.
Aujourd'hui, Iréna travaille sur une nouvelle conférence gesticulée consacrée à son expérience dans l'aide aux migrants. Une conférence où elle propose des pistes aux spectateurs pour agir et venir en aide aux populations réfugiées en France. Quand je lui ai demandé si elle pouvait me mettre en relation avec d'autres conférenciers vivant en région parisienne, elle m'a orienté vers Mathieu Dalmet, que j'ai rencontré chez lui à Pantin, au nord de la capitale.
Bonjour, moi c'est Mathieu. J'ai découvert la conférence gesticulée comme beaucoup en voyant une conférence de Franck. C'était en 2010 à Montpellier. J'y suis allé un peu parce qu'on m'a tiré là, et que globalement j'étais un peu intéressé par le sujet de l'éducation et que je me suis dit, enfin bon, pourquoi pas. Et puis j'ai été scotché. J'ai été scotché par le spectacle et par la forme. Parce que j'étais en train de me battre et de pas trouver trop de solutions dans l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais. En fait, dans une école d'ingénieur, le problème c'est pas d'en ressortir avec le diplôme, le problème c'est d'en rentrer. Et toute la valeur qu'on accorde à cette école et au diplôme, il est lié à la sélection qu'il y a à l'entrée. Une fois qu'on est dedans, on fait plus grand chose et on se laisse tranquillement amener jusqu'au diplôme à la fin. Et que donc en disant que j'ai fait mes études à Supagro et que j'y suis rentré en cycle ingénieur, et en ayant un diplôme Master 2, ça me changeait pas grand-chose. Voilà.
Mais tu voulais donc marquer quelque chose en refusant le diplôme symboliquement, c'est ça en gros ?
Ouais, clairement marquer que le titre d'ingénieur qu'il y a derrière ce diplôme, il me semble aujourd'hui... dépassé, et surtout qu'il entraîne et qui cache une hiérarchie dans la société, dans les diplômes, dans les études, et puis derrière, dans la division du travail, avec la place de l'agronome par rapport aux paysans, avec plein de choses qui sont profondément néfastes et qui sont jamais travaillées et qui sont imposées en fait. Les écoles d'ingénieurs sont un moule à la culture capitaliste et à la division de travail, vraiment. Et du coup, le fait que ce soit jamais travaillé, expliqué, discuté dans ces écoles, mais que ce soit imposé, eh ben, j'avais envie, en refusant le titre, de refuser ça. Oui. Et donc ce jour-là, quand je découvre la forme conférence gesticulée, je suis un peu ébloui par le fait que je me dis c'est vraiment de cette forme-là dont j'ai besoin pour réussir à exprimer pourquoi j'ai envie de refuser ce diplôme.
Comment t'as transformé ça en conférence gesticulée ?
Ça a été long pour le transformer en conférence gesticulée. Parce que j'ai écrit d'abord, en écrivant savoir chaud, savoir froid.
Savoir chaud, savoir froid.
Je veux dire, j'ai écrit pourquoi je voulais refuser mon diplôme, en classant vraiment d'un côté tout ce qui était les lectures que j'avais pu faire sur le fonctionnement du système scolaire, des grandes écoles, des choses comme ça, et qui sont de la documentation scientifique, souvent sociologique. Et les savoirs chauds, mon vécu, mes expériences, les anecdotes que j'avais et qui reflètent ce que j'ai envie de critiquer dans l'école.
Napoléon, quoi, il arrive et il crée ça. Il crée un titre d'ingénieur. Et quand il fait ça, en fait, il a toute la noblesse qui est un peu déçue de ne plus avoir ses titres, quoi, avec la Révolution. Il a la bourgeoisie qui est là, qui devient directeur d'usine de plus en plus grosse, qui est en recherche de légitimité un peu culturelle, ou en tout cas différente de juste avoir les sous et diriger l'entreprise pour se sentir un peu supérieur. Et donc il dit, bah ces écoles-là qui deviennent de plus en plus dures à obtenir, dans lesquelles bon, il y a une reproduction des classes sociales évidente qui se met en place, eh ben on va carrément les anoblir et créer le titre d'ingénieur pour titrer les personnes qui font ces écoles-là. Et donc oui, aujourd'hui, la reproduction des classes sociales, elle se fait de façon très forte en école d'ingénieur.
Ouais, la conférence, comment s'appelle ? Vous êtes l'élite de l'élite de l'élite de la France.
Elle était juste...
Pardon, la conférence s'appelle comment ?
Vous êtes l'élite de l'élite de l'élite de la France. Phrase qu'on m'a dite à mon entrée en prépa, puis à mon entrée en école d'ingénieur, et qui fait partie de toute cette doctrine dans laquelle on te met ou on te survalorise dans ce système-là pour pas que tu le remettes en cause et qu'il y ait toute une façon d'assurer encore la docilité de ses élèves. Donc ça, c'est le titre qui est un peu répétitif, mais voilà. Et je mets un deuxième titre derrière de pourquoi je refuse mon diplôme d'ingénieur. Parce que c'est comme ça que j'ai construit ma conf, c'est pour répondre à ce fil rouge-là. Voilà.
On comprend bien, en fait, à travers ton expérience et probablement à travers d'autres expériences, le rôle de la conférence gesticulée à la fois dans un parcours personnel et dans un parcours de partage, de sensibilisation des autres à ce qu'on a appris, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience de conférence gesticulée, donc depuis maintenant à peu près 3-4 ans ?
Donc moi, ça m'a vraiment apporté une libération d'avoir trouvé et construit la forme dont j'avais besoin pour exprimer la complexité d'un choix que j'avais fait à un moment donné. Et ça m'a vraiment apaisé par rapport à... Ça m'a permis de boucler, quoi. On dit souvent que c'est une façon de tirer sa révérence ou quoi, mais ça m'a vraiment permis de boucler toute une partie militante de ma vie que j'avais besoin de boucler comme ça. J'attaque avec un troisième titre sur ma conférence gesticulée qui s'appelle « Ma seconde soutenance de mémoire ». En fait, je présente comme ça, mais ça, c'est vraiment le titre personnel pour dire... Ouais, c'est en fait, c'est... des fois on soutient un mémoire parce qu'on a travaillé pendant longtemps sur quelque chose, et ça c'est en fait c'était le parallèle, quoi, le mémoire de la vraie vie, et pour dire en fait vraiment ce que j'ai vécu à un moment donné. Et donc ça m'a apporté la forme de faire ce stage pour oser raconter ma vie, quoi. Et après ça m'apporte plein de rencontres, de la légitimité pour être invité sur les sujets que je mentionne aussi, où je me fais quand il s'agit de critiquer les formations agronomiques aujourd'hui, même dans des milieux académiques, mon nom peut ressortir ou on peut me demander de venir. Donc je disais plein de rencontres sur ce sujet de gens... Moi, je l'ai vraiment ciblé dans ma conférence gesticulée. Les gens qui m'intéressent, c'est les gens qui peuvent ressentir tout ce que j'ai ressenti, mais qui n'ont pas la chance que j'ai eue d'avoir un réseau autour et des gens pour approfondir ça et pour y mettre des mots et pour avoir du savoir froid dessus aussi. Et donc des rencontres avec ces personnes-là. Et après, le plaisir de la scène aussi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de théâtre ou autre. J'en avais fait un tout petit peu petit. Et j'aime bien ça. Et de découvrir ça. Enfin, pour bien vivre, d'aller jouer ces conférences gesticulées, il faut aimer ça aussi, je pense.
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Ah.
La 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 la. La 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 la. la 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 la. Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
un incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la.
Vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Nous explorons aujourd'hui l'univers des conférences gesticulées. Franck Lepage est le créateur de ce concept.
Plus ça devient théâtral, plus on sort de la conférence gesticulée, c'est-à-dire plus on rentre vers une forme. Si quelqu'un se met à faire du théâtre, on va le juger sur la qualité théâtrale de ce qu'il fait. Et donc on va regarder s'il est bon acteur, s'il imite bien, d'accord ? C'est totalement parasite. D'abord parce qu'il y a très très peu de bons acteurs, il faut des années et des années de théâtre pour être un bon acteur, moi je pense, c'est pour ça qu'il y a autant de mauvais théâtre. Non, la conférence gesticulée c'est une forme très pauvre en fait, et je dirais presque que plus c'est mauvais, plus c'est mal foutu, enfin plus on voit la personne hésiter, plus on la voit sincère. Et en fait, ce qui touche les gens, c'est cette sincérité. On a fait une conférence gesticulée avec 6 conseillers de Pôle emploi. Du point de vue théâtral, c'était pas, il y avait pas de mise en scène, si tu veux, il y avait juste ils passaient les uns après les autres. Donc c'était pauvre théâtralement, mais j'ai vu des gens pleurer dans la salle, tellement ils étaient touchés par ce qu'ils se disaient, parce que la conférence gesticulée, elle s'adosse à une nécessité pour la personne. Il y a aucune raison de venir faire une conférence gesticulée sur un sujet qu'on connaît pas. Enfin moi, il y a des fois des gens me disent, est-ce que tu vas en faire une nouvelle? Je dis, écoutez, j'en ai déjà 3 sur des sujets qui m'ont concerné de près. J'ai fait le tour, enfin j'ai plus rien à... Je vais pas faire une conférence sur les gaz de schiste ou le combat contre le nucléaire. Je suis pas militant de ce truc-là, donc j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, ou alors ça serait totalement artificiel.
Comment est-ce qu'elles circulent, les conférences gesticulées aujourd'hui?
Alors il y a 2 phénomènes. On va distinguer. Une personne qui vient faire une conférence gesticulée, ça n'est quasiment jamais parce qu'il veut vivre de ça. Il veut pas devenir intermittent du spectacle. C'est quelqu'un qui a des raisons dans sa sphère, dans son milieu, de porter une question, d'accord. C'est, par exemple, si tu as interviewé Mathieu Dalmet, il a fait ça dans le cadre d'Ingénieurs sans frontières et il va dans des écoles d'ingénieurs pour éveiller la conscience politique des futurs ingénieurs, etc. Bon. Donc lui, il n'a pas envie de devenir comédien. Et il a un outil qui va vivre sa vie le temps qu'il va décider de continuer à faire ça, quoi. Du coup, ça n'aurait pas de sens de chercher à le produire, à appeler des théâtres ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. En tout cas, nous on fait pas ça. Donc, les conférences gesticulées vivent leur vie de façon autonome. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un truc qu'on a absolument pas calculé, qui est YouTube. Un jour, un type a mis, sans nous demander notre avis, a mis un passage que je fais avec des mots. Une espèce de discours de langue de bois avec des petites cartes comme ça où je m'amuse à faire un discours avec des mots qui veulent rien dire comme local, territoire, développement. Et il y a quelqu'un qui a coupé cet extrait et qui l'a mis sur YouTube. Un ami nous a appelé en disant, vous devriez voir ce qui se passe. Le gars a mis ça avant-hier, il y a déjà 200 000 vues. Donc comment ça, 200 000 vues? Donc j'y vais, on était rendu à 500 000. Et donc avec les collègues de la SCOP, on se dit, s'il y a 200 000 personnes qui ont regardé on était en pleine bagarre sur les retraites, peut-être on peut couper le passage qu'on fait pour expliquer le mensonge gouvernemental sur les retraites. Et donc on peut, peut-être il y a des gens qui vont le voir, donc on fait ça, un copain dit je m'en occupe, il met un extrait sur YouTube, et là on monte à 800 000 vues. Et on a des syndicats qui apprennent comme un sketch, qui apprennent ce passage par cœur, qui le refont en Assemblée Générale pour revoter la reconduction de la grève le lendemain. Et on se dit, mince, on vient littéralement de créer un outil à disposition du mouvement social, tu vois, enfin, très modestement, mais n'empêche que. Donc on a commencé à mettre 1 ou 2 vidéos qu'on trouvait intéressantes, qu'on trouvait réussies, des conférences sur YouTube. Et il y a toute une jeune génération qui s'est mise à s'intéresser à cet objet. Moi, c'est très clair, quand je commence ma conférence en 2005, je n'ai dans la salle, d'abord, j'ai pas beaucoup de monde, hein, j'ai des salles de 30 personnes, c'est magnifique, tu vois, j'ai déjà joué devant 9 personnes, enfin, tu vois, et puis surtout 9 barbus, enfin, je veux dire, je joue que devant des 68ards de plus de 50 ans, enfin, des gens qui sont tout à fait prêts à entendre ce discours crypto-marxiste, tu vois. Et puis, je vois le public se rajeunir tout doucement, et un jour, à Beaubourg, je sais plus quand c'est, en 2009, ou je sais plus quand c'était, 2011, bref, peu importe, la lumière se rallume, et je vois devant moi une salle de 300 jeunes. 300 jeunes, qui viennent me voir, qui ont 22, 23 ans, enfin, des trentenaires, grosso modo, et qui me parlent de Friot, Bernard Friot, Frédéric Lordon, Étienne Chouard, qui se mettent à m'expliquer la crise de la dette grecque, la création monétaire, enfin, et qui sont extraordinairement friands des conférences gesticulées, et qui en cherchent, qui se mettent à vouloir en voir et tout ça. Et donc, je pense qu'on est en train d'assister à un phénomène assez nouveau, qui est qu'il y a toute une jeune génération qui est en train de s'instruire du capitalisme.
Des milles et des cents, on pose des mines, on descend, on pille par le sang pour extorquer le moindre roupie. Et dans nos lits, on roupie, ils font 52% et prennent un malin plaisir à tordre nos utopies. Arrête ton char d'assaut, la mer pleure, la terre tremble. Quand vous mettez vos costards de charlatans au cœur tendre, et on écoute ce qu'on quimante, carmiez-le à la télé, en train de déblatérer sur la misère d'un continent. Bienvenue à l'âge de la poudre, le nirvana technologique. Ici, y a du fanta dans les biberons et dans les larmes du gin tonic. Y'a pas de place pour toi dans leur plan indélicat. Y'a trop de renégats dans les fauteuil de l'État, tactique en citant, imprécisé, décivilisé, trop analysé, peuple débilisé, zik aseptisé, merde télévisée. Chie dedans, crève dedans, bouffe dedans, dors dedans, rêve dedans, bosse dedans, baise dedans, pleure dedans. Chie dedans, crève dedans, bouffe dedans, dors dedans, rêve dedans, bosse dedans, baise dedans, pleure dedans.
Ben moi c'est Jean-Roland Tartas, je suis médiateur scientifique. J'ai travaillé donc pour des associations et j'ai développé une société, Les Savants Fous. Et après, arrivé à un certain moment, j'ai voulu arrêter mon activité vu que j'avais fait le tour. Et je voulais passer un diplôme dans mon domaine, l'éducation populaire, parce que j'ai beaucoup d'expérience mais aucun diplôme dans le champ de mon domaine. Et donc j'ai voulu capitaliser un petit peu mon expérience par un diplôme. Et donc j'ai tapé tout simplement éducation populaire sur Google et je suis tombé sur la conférence de Franck Lepage qui s'appelle l'éducation populaire monsieur, ils n'en ont pas voulu, et j'ai découvert donc cette fenêtre qui s'est ouverte à moi, et derrière ça j'ai découvert qu'il y avait encore plein d'autres conférences gesticulées sur plein de domaines totalement divers et variés. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le savoir pauvre. Le savoir pauvre, c'est voilà, tu apprends, c'est du par cœur. Le soleil il se lève d'un côté, il se couche de l'autre, c'est parce que la terre elle tourne sur elle-même. Alors que le savoir riche, là, par contre, c'est tout autre chose. On va essayer de se l'interpréter. Tiens, c'est bizarre, le soleil se lève d'un côté et il se couche de l'autre. Mais à ton avis, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de nous? Et puis on va se retourner la question, on va l'expérimenter et on va justement essayer d'y répondre par soi-même. Et ça, justement, c'est le domaine scientifique, là, pour le coup, ce qu'on appelle la démarche expérimentale, donc qui est une démarche, en fait, où moi, en tant que jeune, j'ai croisé en participant au trophée de robotique, et à partir de ce moment où j'ai réussi à apprivoiser cette démarche, la démarche expérimentale, ça m'a permis de...
L'empirisme.
Ouais, voilà. Ça m'a permis vraiment de m'expliquer le monde dans lequel je suis, et de toujours rechercher à savoir et pas de prendre le savoir tel qu'on me le donne, quoi. Une conférence gesticulée ne va pas forcément apporter une réponse, ne va pas forcément apporter une solution, mais au moins elle va nous faire apporter une réflexion, une question. Et c'est là où c'est gesticulant, c'est que bah, les gens vont repartir en se disant ouais, tout ce qui a été dit, c'est intéressant, il faut qu'on se pose la question, il faut qu'on... Et ça mobilise un petit peu le temps de cerveau aux gens et ça permet de communiquer, de partager et c'est ce qu'il y a de beau dans ce monde virtuel.
Les conférences gesticulées des anti-TED à la française. C'était un reportage de l'Atelier des médias signé Ziad Malouf et Simon De Creuse avec l'appui de Constance Léon. Merci à Irena Avilcek pour son aide au festival Octobre Bouge qu'elle co-organise et qui se termine ce dimanche. Merci à nos autres témoins et bien sûr à Lunar qui nous a soufflé l'idée de cette émission. Salut à toutes et à tous.
Toutes les personnes que je connais qui ont monté leur conférence gesticulée, ça a été un travail énorme de recherche personnelle et d'introspection qui est toujours douloureux. C'est-à-dire qu'on, quand même, on a remarqué dans la plupart des groupes de formation, il y a des personnes qui, dans l'année, deux ans autour de la conférence et de la formation, vont changer de famille, quitter leur boulot, enfin faire des changements un peu drastiques dans leur vie. Ça n'a pas loupé pour moi. un déménagement, une rupture amoureuse. La conférence gesticulée, c'est quand même aussi une position très valorisante parce que, à un moment donné, on monte sur scène. Certes, on s'expose parce qu'on parle de l'intime, on parle de sa vie, mais aussi d'une façon qui peut parfois poser des questions dans une perspective de transformation sociale ou en tout cas où moi, je souhaite un monde où davantage de gens peuvent prendre la parole et où mon espoir, c'est qu'il y ait une publication des conférences gesticulées, elle ne crée pas des personnes qui soient des stars absolues et qui sont connues de tout le monde, et plutôt qu'elles encouragent d'autres personnes à faire des conférences gesticulées à l'heure, raconter leur histoire, raconter... Comme dans la conférence gesticulée, on raconte des bouts de sa vie, son histoire personnelle, ça crée beaucoup de sympathie.
RFM.